Et bonjour, vous êtes bien sur FM+, le 91.00, et vous avez peut-être reconnu l'indicatif si vous êtes abonné, si vous écoutez souvent eh bien, notre radio. Il s'agit du Festival de Radio France et de Montpellier. Alors le vrai titre, c'est le nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier, qui se tient ici donc à Montpellier et ailleurs entre le 6 et le 19 juillet. Voilà. Alors nous sommes presque au bout de la première semaine. Je vais vous raconter tout un tas de choses. Alors il faut savoir aussi que sur l'antenne de FM+, vous aurez à peu près tous les jours la rediffusion de la dernière émission. Voilà. Donc vous en entendrez tout au long de la semaine prochaine, tout un tas de choses autour de la musique. Si vous l'avez entendu une fois, c'est pas la peine de réécouter, vous l'entendrez la même chose. Voilà. Et vous aurez en tout 3 ou 4 émissions pour le moment. C'est toujours un peu difficile d'avoir des artistes. Et depuis quelques temps, c'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas quelle est la raison, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, pour commencer cette émission autour du festival, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Aurier, qui est donc le président de ce festival, le directeur du festival. Et donc, j'ai la chance de le rencontrer, il va tout vous dire, mais il faut savoir que déjà, au bout presque d'une semaine, puisque nous sommes le vendredi 11, c'est que ça a commencé, en gros, on dira le 7, lundi 7, mais bon... Le gros morceau, c'était quand même, le 7, c'est ça. Donc vous allez écouter un certain nombre de choses dont on va reprendre. Et là, c'est donc Michel Aurier qui va tout vous dire sur ce festival. C'est les 40 ans en plus, hein, il faut bien le noter. Donc pour ces 40 ans, il va tout vous dire. Michel Aurier, alors 40 ans pour le festival. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Pour Radio France, pour Montpellier, pour tout un tas de choses.
Bah pour nous, c'est, je dirais d'une certaine façon, c'est une victoire. Hein. 40 ans de festival et d'être toujours là, d'être toujours, d'avoir toujours les faveurs du public, des artistes, de pouvoir à chaque fois monter des éditions dans lesquelles on a des moments de musique absolument incroyables. Et de le faire en étant soutenu par les collectivités territoriales. Enfin, tout ça fait que c'est une intuition du départ. Ça prouve qu'elle était juste et qu'il faut continuer à l'entretenir, à la servir, à la développer, à la revisiter, etc.
Est-ce que ça nécessite aussi, au bout de 40 ans, de se remettre à jour ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup de... On peut dire beaucoup de directeurs depuis RK, depuis René Kering.
Pas tant que ça. Il y a eu surtout René Kering, pendant ouais. très longtemps, heureusement oui. d'ailleurs.
30 ans, je crois,
voilà.
à peu près.
Et puis après, il y en a eu 2 autres.
Ouais, c'est ça.
Donc finalement, 4 directeurs sur 40 ans, oui, mais avec 1 sur 30 ans quasiment, c'est pas tant que ça. Non, mais au-delà des directeurs, ce qui est important, c'est d'arriver à entretenir la flamme, quoi. C'est d'arriver à faire en sorte que les choses adviennent et que le festival, surtout, ça reste un moment de retrouvailles des publics qui viennent avec la musique dans ce cas-là de plus urgent et de plus fort.
D'accord. Alors cette année, on a raconté des tas de choses sur les budgets de la culture qui ont un peu explosé, enfin explosé, réduit au plus... réduit pas mal de festivals au silence. Est-ce que vous avez eu une grosse trouille ?
Pas seulement une trouille, on a beaucoup moins d'argent, oui.
Mais comment ça fait à peu près le budget cette année ?
Oh, la louche, la louche. Le budget, il n'est pas... Non, mais le budget, ça ne veut pas dire grand-chose pour les... c'est des budgets culturels, si on n'est pas dedans. Vous avez, pour les uns, ça va être rien. Pour les autres, ça va
bien
être...
Bien sûr.
Considérer qu'il y a trop d'argent là-dessus. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est vrai qu'on repère cette année, surtout le département de l'Hérault, d'ailleurs, qui se retire intégralement. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Après, je comprends que c'est difficile pour tout le monde. Hein, mais lâcher sur la culture... c'est un endroit, c'est renoncer à l'action politique. Et c'est ça qui est...
Et ça rappelle trop de mauvais souvenirs aussi. Hein.
Oui,
pas souvenirs personnels, m'a fait
des mauvaises
choses.
De toute façon, on est dans des temps populistes et c'est vrai que c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon signal.
Et Radio France, vous avez eu à peu près le même problème ou pas plus que ça?
Alors, Radio France, on a évidemment aussi cette année une restriction de budget importante, oui.
D'accord. Et ça impacte par exemple les nombres de concerts des orchestres et des chœurs?
Ça nous impacte dans notre fonctionnement, bien sûr, oui, oui. Oui. Donc, pour l'instant, on fait avec, mais il y a un moment où on n'y arrivera plus, c'est clair.
Ouais, c'est clair. Donc, il y a des réflexions déjà qui sont entamées ou pas forcément?
Réflexions, chaque jour qui se lève, c'est le problème des bipèdes que nous sommes, c'est que dès qu'on est debout sur nos pattes arrière, on réfléchit, hein, sinon il n'y a plus rien qui fonctionne.
D'accord. Le programme cette année, j'ai l'impression que ça a été quand même, par rapport à l'année dernière, si on fait allusion, bon, vous avez un peu décalé aussi, vous êtes resté un peu sur les mêmes...
Non, c'est les mêmes dates. C'est...
Oui, c'est ça, par rapport aux années d'avant, oui.
Ah, oui.
Et vous avez gardé le fameux 6.
Mais en même temps, si vous voyez, il a 40 ans, le festival, il a démarré le 6 juillet 85 et on va démarrer le 6 juillet 2025. Donc on reste sur des... la première quinzaine de juillet, c'est quand même ce qui est épatant pour nous. C'est
oui.
Ce qui est mieux.
Oui. Oui. Alors l'année dernière, vous aviez eu des reproches sur le fait qu'il n'y avait pas assez d'opéra. Bon.
Oui,
c'était Diapason, je crois, qui avait dit ça, pour ne pas les nommer.
Non, c'est possible. Il n'y a pas assez d'opéra.
C'est toujours pareil.
Ça, là, on va donner deux opéras. Un opéra contemporain, puisque ça sera Actéon avec la maîtrise de Radio France. Et puis on va donner El Triunfo del Tempo et de Zingano.
C'est un oratorio, opéra. Enfin, c'est un peu les deux.
Peu importe. C'est
format Nature, opéra.
Nature et Spina, c'est quand même un air d'opéra.
Oui.
Hein. Donc, non, c'est un opéra. Après, c'est pas un festival d'opéra.
On est bien d'accord.
Un festival d'opéra, c'est Aix-en-Provence, c'est 25 millions de budget.
On ne parle pas sur le budget d'Aix.
Mais nous, c'est pas un festival d'opéra, c'est un festival de musique, dans lequel il y a beaucoup de musique symphonique, il y a beaucoup de musique de chambre, il y a beaucoup d'esthétiques différentes. C'est un festival très très large dans ce qu'il offre au public. Et donc, voilà. Mais il y a quand même deux opéras qui y sont donnés. Oui.
Alors, on a l'impression aussi que Sickering, reprenons les 40 ans, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'œuvre à découvrir, qu'on avait perdue et qu'on retrouvait, que lui retrouvait dans les manuscrits. Donc, pendant quelques années, ça a été un peu perdu. Et on a l'impression qu'un peu vous essayez de repartir un peu de ce côté-là, non?
Oui et non. C'est-à-dire... Moi, j'aime à faire redécouvrir des œuvres, qu'elles soient... Vous savez, il faut avoir beaucoup de modestie en ce moment sur ces trucs-là, parce que nous, on a l'impression, parce qu'on est mélomane, que tout le monde connaît tout.
Bien sûr.
Et en fait, c'est pas vrai. Je vais ouvrir avec les suites françaises de Bach, qui est vraiment une invitation à la musique, à la danse. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très léger, de très beau. C'est vraiment ce que Bach a écrit de plus simple. Qui est-ce qui connaît les suites françaises de Bach aujourd'hui? Alors, évidemment, vous allez les entendre et dire oh, « c'était formidable, c'est incroyable cette musique, j'ai passé un moment incroyable, etc. etc. » Mais personne ne connaît. On finira avec le boléro de Ravel et la valse. Le boléro, évidemment, ça, beaucoup de gens connaissent. Parce que tous les quarts d'heure dans le monde, on joue...
Oui, ça, c'est incroyable. Je ne connaissais pas ce chiffre, mais c'est incroyable.
Et donc, mais sorti de là, vous savez, quand on dit la mère de Debussy, nous, dont c'est le métier, on se dit la mère de Debussy, c'est un des incontournables de la musique française. Et c'est vrai. Mais qui est-ce qui a entendu la mère de Debussy aujourd'hui? Si vous sortez dans la rue avec votre micro et que vous savez, arrêtez les gens, vous connaissez la mère de Debussy, les gens ne sont pas entendus.
Ils attendront la mère, peut-être.
mais donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup d'humilité. Et puis, il y a des pièces nouvelles à faire entendre. Dans le même programme, d'ailleurs, où la mère de Debussy, oui. On va faire entendre la suite symphonique de l'Ange exterminateur de Thomas Hadès. Partition contemporaine formidable, magnifique, très accessible, et qui nous parle vraiment du monde d'aujourd'hui, enfin, qui est vraiment une très, très belle partition. Voilà, on va... je crois qu'il y a, quand on parlait tout à l'heure de l'opéra de Handel, le temps le triomphe du temps et du désenchantement, là-dedans, il y a un ou deux airs très très connus,
bien sûr.
Et le reste est moins connu. Et c'est une partition sublimissime. Donc, oui, il faut pas forcément aller chercher sous la pile de telle ou telle bibliothèque le dernier truc, etc. Il y a beaucoup de choses à faire entendre, réentendre au public aujourd'hui. Et je crois que moi, pour moi, ma plus belle récompense, c'est quand je vois les gens sortir et qu'ils viennent me dire, c'était un moment incroyable, et que je vois qu'ils ont vraiment, ils se sont nourris pendant ce moment-là. Non, mais ça, c'est le rêve du programmateur.
D'accord. Chamaillou revient, quelle joie. Il nous avait fait, c'est l'année dernière, les listes. Les années de pèlerinage ou c'est l'année de pèlerinage?
C'était il y a 2 ans.
Voilà, c'est ça.
Il a fait les années de pèlerinage.
C'est un sacré morceau, ça aussi.
Oui, c'était formidable. Donc, dans l'idée des grandes pages de piano, bon, là, il va nous faire une intégrale Ravel. Et ça, c'est le fait, c'est sublime. Mais dans l'idée justement des années de pèlerinage, on va faire les harmonies poétiques de Liszt par François Dumont, très très grand pianiste aussi, qui fait une carrière. On dit aux États-Unis underrated, c'est-à-dire que je pense que les gens se rendent compte à un moment donné de qui est François Dumont.
Oui, parce qu'il n'a pas une cote extraordinaire.
Non, les gens ne le connaissent pas, c'est un pianiste absolument incroyable, merveilleux pianiste. Et donc, qui nous fera ça, je crois que c'est. Je ne sais plus si c'est à l'Opéra Comédie ou si c'est au Pasteur, mais en tout cas, ce sera un grand moment du festival.
Alors, beaucoup de piano aussi cette année. Hein.
Oui, il y a beaucoup de pianistes. On a parlé de Yucha Wang, on a parlé de Korbenikov, là on vient de parler de François Dumont, on a parlé de Bertrand Chamaillou. Il va y avoir Alain Planès sur un récital Schubert, sublime, autour de, notamment avec cette sonate en sol, qui est absolument une partition magnifique, et puis la fantaisie.
Globalement, comment vous faites? Vous choisissez un interprète, vous avez envie d'écouter tel interprète parce que vous l'avez entendu en disque, en concert ou je ne sais pas quoi, ou vous discutez beaucoup avec quelques interprètes pour faire un programme?
Alors, les deux, c'est-à-dire on choisit les interprètes, mais on discute du programme avec eux. Trifonov, par exemple, immense pianiste.
Ah oui,
ça c'est sûr. Immense pianiste, qui va venir faire le troisième de Rachmaninov. On a construit le programme avec Daniel Harding, qui est un très grand chef d'orchestre qui va diriger le Phila. On a construit ce programme avec eux et non, ça c'est très. Et ça, moi je pense que. Enfin, parce que vous savez, Alors évidemment, nous on s'attache à faire en sorte que, encore une fois, ce soient les artistes les plus urgents à entendre, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment porteurs de quelque chose d'extrêmement fort. Mais. Le public, ce qui l'intéresse, c'est le programme. C'est le programme. Et donc, il faut vraiment travailler la question des programmes avec soit les directeurs musicaux, soit les solistes. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des choses qui sont complètement ésotériques ou qui n'ont pas de tenue sur un festival. C'est un peu comme un morceau de jazz, il faut qu'il y ait une tension, il faut qu'il y ait une dynamique. Et la dynamique, c'est la dynamique de la programmation.
Parce que ce qui est toujours étonnant quand on va voir un soliste qui joue quelque part, c'est la façon dont il a construit le programme. Oui. J'en avais discuté avec je ne sais plus quel pianiste, mais c'est une réflexion qu'on est loin de se faire quand on va écouter le concert.
Pensez au programme de Kissin l'an dernier,
oui.
C'était ça, hein. Un programme absolument incroyable.
Et ça vous est arrivé de ne pas programmer un concert parce que vous n'arrivez pas à vous, entre guillemets, vous entendre avec un...
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, lui, il est calé dans son truc, c'est un programme qui tourne et puis c'est fini.
Voilà, et dans ce cas-là, je le fais pas. Si je trouve ça trop éloigné de ce qu'on essaie de construire et du sens qu'on veut donner aux choses, je le fais pas.
Et vous arrivez après à colmater les brèches pour arriver à le...
Oui, parce que c'est pas grave. Pas grave, vous avez tel ou tel artiste qui cette année-là joue ça et pas autre chose et puis ça rentre pas dans votre programmation, ben vous le prendrez une autre fois sur un autre programme, c'est pas
d'accord.
Ou même sur ce programme-là une autre année, peu importe. Mais il faut respecter ça parce que, encore une fois, le public, c'est le programme qui va le motiver et donc vous pouvez pas. Je crois que là-dessus, il faut être. Ça sert à ça, un directeur de festival quand même.
Oui, je crois. Amener les gens qu'on a envie d'écouter à un moment donné sur un programme. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà le programme de l'année prochaine, il commence à se cogiter?
Oui, le programme de l'an prochain il est déjà bien structuré.
Oui. Bon, et bien écoutez, merci beaucoup et puis on s'espère qu'on se verra bientôt. Ouais. Bon courage à vous.
Thank you.
Voilà, c'était donc Michel Aurier, le directeur artistique, le directeur tout simplement du Festival Radio France et Montpellier, qui nous racontait un peu tout ce qu'il va y avoir. Alors au bout d'une semaine, on a eu un certain nombre de choses. On a eu d'abord, Yuwa Wang, pianiste chinoise absolument excentrique et qui a joué non pas du Chopin comme c'était annoncé, et le public n'était d'ailleurs pas content du tout, mais ça s'est calmé. Il y a eu le concerto de Tchaïkovski. Deuxième soirée, c'est-à-dire le 8, il y a eu William Christie. Vous avez entendu là eh bien, un extrait de cette Disinganio, c'est-à-dire un oratorio de Handel. Et c'était donc Il Triomphe del Tempo e del Disinganio. Et vous avez entendu la magnifique contralto, c'était une découverte pour moi, qui s'appelle Jasmine White, une dame absolument extraordinaire. Donc c'était William Christie, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu pendant le festival, on l'avait vu ici, mais pendant le festival, je ne sais pas combien ça fait de temps. Et donc c'était cet oratorio magnifique, public, enthousiaste. Ensuite, il y a eu donc le 9 juillet, il y a eu Chamaillou, Bertrand Chamaillou, je n'ai pas pu avoir un interview, c'est dommage. Et hier soir, donc le jeudi 10, il y a eu Mahler, la symphonie Résurrection par l'orchestre de Toulouse. Voilà, rien de plus, avec dirigé par Peltowski, voilà, le chef actuel de l'orchestre de Toulouse. Voilà. Donc maintenant, nous allons écouter une petite interview que j'ai réalisée autour d'un quatuor de jeunes toulousains, là aussi. Alors c'est marrant parce qu'on a eu le jeudi, on a eu Chamaillou toulousain. Vendredi, l'équateur Varenne qui a joué en plusieurs endroits, des Toulousains, et le soir, l'orchestre de Toulouse. Donc la fin de cette première semaine était très toulousaine. Voilà, donc vous allez entendre le quatuor, ils étaient tous les quatre à côté de moi, c'était très sympathique. Et entre les deux morceaux, vous entendrez un enregistrement qu'ils ont réalisé autour de la musique de Schulhoff, un des musiciens dégénérés. Quatuor Varenne, c'est bien d'être Toulousain en ce moment, hein, à Montpellier, pendant le festival. Donc hier soir, Chamaillou, vous aujourd'hui et demain, c'est ça?
Oui, encore demain.
Et ce soir, l'orchestre de Toulouse, c'est bon, hein, c'est bon, on a donné. Alors première question, stupide, Varenne. Alors j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé une église pas loin de chez vous.
D'accord.
Une église ou un monastère, voilà. Et surtout une œuvre de Grieg, c'est ça.
Absolument.
Voilà. Mais je ne suis pas rentré totalement dedans, c'est pas une œuvre pour orchestre plutôt? Alors, qui veut parler en premier?
Alors, je peux répondre à cette question?
Oui, si allez-y, je m'en doute.
Varenne, c'est une pièce de Grieg pour voix et piano. C'est une mélodie élégiaque, l'une de ses deux mélodies élégiaques, qu'il a lui-même arrangée pour orchestre à cordes.
Ah, voilà.
Et lors du premier concert où on avait un nom, David en a fait un arrangement pour quatuor à cordes et qu'on a joué au concert. Donc voilà, depuis c'est resté, on devait trouver un nom un peu rapidement, donc on a décidé de garder le nom de cette œuvre qu'on aime beaucoup et que David a arrangé pour quatuor.
Donc c'est pas un mot toulousain.
C'est pas un mot toulousain, c'est un mot norvégien qui veut dire le printemps.
Oui, voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Bon, parfait, bien. Alors si j'ai bien compris, donc vous êtes connus au lycée, à Toulouse, puis après vous êtes un peu séparés parce que chacun vous êtes parti un peu partout, à Paris ou ailleurs, et puis vous êtes, comment on dit, vous aviez pas de nom à ce moment-là.
On venait d'avoir un nom aussi quand on s'est...
Et c'était quoi le nom là?
C'était Varenne. Varenne, oui,
c'était toujours Varenne, vous n'avez pas changé. Puis ensuite, donc, vous avez travaillé, j'ai vu, à Paris, à Cologne, c'est ça? Je ne me trompe pas. Et ensuite, eh bien, vous êtes retrouvés, vous êtes, comment on dit, refondés en 2017, c'est ça?
En fait, en 2017, c'était quand on a commencé le quatuor au lycée. On se connaissait d'avant.
Ah d'accord, d'accord, d'accord.
Jean-Baptiste et Elliot avaient commencé le violon ensemble au conservatoire quand ils étaient tout petits. Alors ensuite, moi, je les avais rencontrés quand on était au collège en horaire aménagé. Et en 2017, donc pendant notre année terminale, on a fait un an de quatuor au conservatoire de Toulouse, où on a rencontré donc David, qui s'est joint au groupe.
D'accord.
Et c'est après ça que pour nos études supérieures, donc comme vous l'avez dit, Jean-Baptiste est parti à Cologne, et nous trois, on s'est retrouvés à Paris à plus ou moins à peu près en même temps. Et on continuait de se retrouver à quatre l'été pour faire des académies. Donc on a fait l'académie du quatuor Debussy pendant 2 ans, et ensuite on a fait l'académie Musica Flaine,
d'accord.
dans les Alpes, avec Luc-Marie Aguera et des membres du quatuor Isaïe. Et à l'issue de notre première fois à l'académie de Flaine en 2022, Luc-Marie nous a proposé de rejoindre sa classe au CRR de Paris. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se revoir un petit peu plus régulièrement. Jean-Baptiste faisait les allers-retours. pour qu'on puisse travailler. Donc on, par petites sessions, une ou deux fois par mois, on se revoyait. Et là maintenant, depuis un an et demi, on s'est mis vraiment à travailler quotidiennement ensemble. On a préparé un petit concours. Et puis on est rentré au CNSM en master de quatuor à cordes tous les quatre.
D'accord. Alors j'ai vu une caractéristique, mais peut-être j'ai mal vu, sur une des photos de votre site, hein, c'est pas toujours le même premier violon.
Oui, effectivement.
Ah, bien vu alors.
Effectivement, depuis qu'on a commencé le quatuor avec Jean-Baptiste, on échange régulièrement de place en fait, parce que... Alors au début, c'était par curiosité d'apprendre un petit peu les deux métiers que sont celui de premier violon et de second violon, qui sont des rôles très très différents. Et c'est vrai que maintenant, ça se fait de plus en plus. On voit de plus en plus de quatuors qui échangent de place. Il y a une époque où le rôle du premier violon était plus hégémonique sur le quatuor. Et donc on s'est toujours comme ça réparti. Alors au départ, un peu par affinité de répertoire, et puis... finalement, c'est devenu assez naturel.
D'accord. Ça veut dire que vous avez des œuvres où c'est vous qui jouez premier violon, d'autres c'est vous, ou vraiment vous mélangez tout ?
Non, on respecte quand même au sein d'une même œuvre le premier violon.
Oui, bien sûr. Mais je comprends bien. Mais quand vous prenez, par exemple, je dis n'importe quoi, le quatuor de Debussy, c'est toujours le même qui est premier violon.
Oui.
Donc j'ai vu que vous avez eu trois prix. J'ai pas noté, enfin, des prix non négligeables. Qui veut parler ? Allez, à vous. Vous êtes donc l'alto, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Donc David, allons-y.
En fait, en avril, enfin la deuxième année où on a fait FLEN, Luc Maria Guerra nous a parlé du concours de Lyon, international de musique de chambre, qui en 2024 allait être dédié au quatuor à cordes. Et il nous a dit que ce serait un bon objectif pour nous de tenter la présélection et ça pourrait vraiment nous faire progresser. Donc c'est un petit peu la première fois où on s'est confronté au concours. Et on est allé une semaine à la montagne chez Elliott pour vraiment bétonner notre présélection. On a enregistré et on a été présélectionné. Et donc là, Jean-Baptiste qui habitait à Cologne est venu habiter principalement à Paris parce que c'est quand même un gros répertoire à monter. Et ça s'est très bien passé puisqu'on a eu le troisième prix. Et donc ça a été vraiment un gros coup de boost pour nous. Après, on a fait aussi le concours de la FNAPEC. Donc c'est un concours ouvert à toute formation de musique de chambre, donc ça c'était...
Le lendemain,
ouais, de Lyon.
Ah oui, d'accord, il faut aller courir, oui.
Oui, mais bon, après du coup, notre programme était bien prêt.
Oui. Les heures de train, c'est peut-être pas positif pour les quatuors aussi.
Ah, c'est toujours un peu fatigant, mais... Et donc voilà, ça s'est très bien passé aussi. Et donc ça, c'est vrai que c'est deux concours qui nous ont... vraiment donner aussi de la visibilité. C'est aussi grâce au concours de Lyon qu'on est ici au Festival Radio France Montpellier. Et donc ça nous a poussé à continuer. En plus, on était rentré en master de quatuor, donc c'était vraiment deux concours qui nous ont beaucoup apporté aussi en tant que progression de groupe et aussi dans le travail aussi. On a vraiment beaucoup plus travaillé à partir de là.
Et à votre avis, c'est tout à fait utile de faire des concours ?
Utile, oui, ça c'est sûr, parce que ça fait beaucoup travailler, ça fait monter beaucoup de répertoire. C'est un très bon exercice. Après, il y a plein de groupes qui réussissent à faire une très bonne carrière sans jamais avoir gagné de concours. Mais c'est vrai que c'est un exercice auquel il est très utile de se confronter, ne serait-ce que pour la préparation et les progrès qu'on fait. Et après, au concours, advienne que pourra, j'ai envie de dire, on joue comme on peut, on se confronte à d'autres groupes qui ont beaucoup travaillé, on se confronte à un jury qui a des attentes. Donc c'est toujours la part d'inconnu qui est inhérente à tous les concours, j'ai envie de dire, que ça soit musique ou pas d'ailleurs.
Vous avez prévu d'autres concours comme ça ou pas forcément ? Par exemple Bordeaux qui est quand même un grand
mois. Bordeaux, on n'a pas préparé cette année. On ne l'a pas fait, mais le projet sur les prochaines années, oui, c'est quand même de faire d'autres concours, de continuer tant qu'on est encore motivé à faire l'exercice, à se confronter à ça. Donc oui, on a prévu de faire d'autres concours dans les années qui arrivent.
D'accord. Thank you. Alors actuellement, vous avez combien, si on peut parler de chiffres, combien vous avez de quatuors à votre répertoire d'œuvres? En gros, on ne va pas rentrer dans des détails.
Alors rien que cet été, on tourne avec un peu moins de 10 quatuors, à peu près 9 œuvres.
C'est pas grave.
Donc je dirais qu'en tout, on a peut-être 20 quatuors, on a travaillé peut-être 20 quatuors pour l'instant. On n'a pas, oui.
Non, c'est bon ?
Rien
d'entendre ?
Non, non.
Alors, si j'ai bien vu, donc ici à Montpellier, c'est donc Boccherini, Beethoven.
Alors, on fait plusieurs programmes. Effectivement, on a la chance d'avoir 4 concerts en métropole avec 2 programmes différents. Donc, on a eu 2 concerts avec un programme Boccherini et Beethoven, effectivement, 12e quatuor de Beethoven. Et un autre programme que nous allons jouer ce soir et demain avec le 14e quatuor de Mozart et le 2e quatuor de Bartok.
D'accord.
Mais on a aussi eu la chance de faire un concert, une matinée à l'hôtel de Castries, ici à Montpellier, où on a joué un programme un peu varié avec des mouvements, et notamment des mouvements du quatuor de Jean Crasse, qui est un quatuor qui n'est pas souvent joué.
Ah oui, c'est vraiment compliqué.
Et nous avions donc le concert hier midi également au Quorum, avec un 3e programme autour de Haydn, Schumann et une pièce contemporaine d'un compositeur français qui s'appelle Karl Nejelen.
Je ne connais pas ce monsieur.
Ben c'est nous non plus, on ne le connaissait pas avant d'entendre parler de sa pièce. C'est une pièce qu'il a écrite pour le quatuor Bella en 2018, qui s'appelle La chute des anges rebelles, d'après le tableau donc de Bruegel l'Ancien, du même nom. Et c'est en rencontrant le quatuor Bella lors d'un festival dans les pays de Fayence en septembre 2023 qu'ils nous ont parlé de cette pièce et ils nous l'ont conseillée pour des concerts, pour des concours, en nous disant que ça marchait très bien et que c'était super à travailler. Donc on a été ravis de découvrir cette pièce à l'occasion.
Alors j'ai vu que sur votre site il y a le Schulhof avec les 5 pièces pour quatuor. J'en diffuserai 2. Et puis j'ai vu qu'il y avait le Debussy. Alors, bon, Schulhof, c'est pas plus connu que. Un peu, mais c'est guère plus connu que votre français, là.
C'est même plus joué.
Oui, un peu plus joué. Et Debussy, bon, incontournable, j'ai envie de dire. Au même titre que Ravel, c'est ça en général, on met les 2 ensemble, mais bon.
Oui.
Ça vous semble correct de mettre les 2 ensemble? Vous feriez ça
de
vous aussi?
Mettre Schulhof et Debussy?
Non, Debussy, Ravel.
Ah oui, bah, bien sûr, ce sont les 2 quatuors impressionnistes français, les 2 gros quatuors du répertoire de quatuors, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que Debussy, c'est un des premiers quatuors finalement qu'on a travaillé, alors que c'est une œuvre très ardue.
Mais, qu'est-ce qu'il y a de difficile à faire Debussy?
Ouais, c'est vrai que c'est un univers assez particulier. La recherche de timbres et de couleurs sonores est poussée très très loin, donc ça oblige les musiciens à avoir beaucoup d'imagination et à se creuser la tête aussi techniquement pour savoir comment faire sonner tout ça. Et à la fois, il y a cette espèce de reste de ce romantisme un peu très, très chargé, avec beaucoup d'accords et d'unisson, qui sont des choses particulièrement difficiles en quatuor.
D'accord. Et on peut donner une idée du nombre d'heures que vous travaillez par jour, par semaine, par je ne sais pas quoi? Vous avez une idée ou pas du tout? Adèle?
Nous, on travaille... notre planning de base, disons, c'est qu'on fait 5 jours par semaine de quatuor et on travaille des après-midi entières.
D'accord.
Donc, ça fait à peu près entre 4 et 5 heures de travail, 5 jours par semaine. Donc, ça, c'est depuis qu'on travaille vraiment quotidiennement ensemble qu'on fait ça. Comme ça, on peut se garder du temps de travail individuel aussi. Et parfois, si on y arrive, des jours de pause.
Alors c'était la question aussi suivante, c'est vous arrivez à conserver de l'énergie du répertoire sur jouer seul aussi? Allez, on va passer.
Alors,
qui voilà. Allez, là, pardon, et lui d'abord. Voilà, allez-y.
Alors on essaye, c'est pas toujours facile parce que là en ce moment on a quand même beaucoup d'engagement, donc on doit monter beaucoup de répertoire. Alors évidemment on se garde du temps aussi tout seul pour pouvoir travailler nos parties.
Bien sûr.
Parce que sinon, arriver en répétition sans avoir travaillé, c'est
bien
un
sûr,
peu...
Ça marche pas.
On perd du temps.
Voilà.
Mais on essaye dans l'idée de se dire qu'on va garder du temps pour faire du répertoire solo. Elliot et Jean-Baptiste, ils ont des cours de violon avec un super prof, Julien Zulman, et ils travaillent aussi du répertoire solo. Mais c'est vrai que le temps est assez restreint consacré à ça, parce qu'il faut aussi, on fait de la technique individuelle, On travaille nos parties de quatuor et on a nos répétitions quand même 5 jours par semaine, parfois un peu plus si on a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça ne nous laisse pas un temps énorme, mais on aimerait bien quand même se dégager du temps pour ça. D'accord. Parce que c'est important de progresser individuellement aussi pour faire progresser le groupe.
D'accord.
Et voilà, donc première émission terminée pour ce festival, donc le nouveau festival Radio France Occitanie-Montpellier qui se tient donc ici du 6 au 19 juillet. Nous nous retrouverons encore plusieurs fois puisque nous avons plusieurs émissions de prévues, plusieurs interviews sur FM+, et nous nous retrouverons avec des rediffusions journalières à peu près de tout ce qui a été fait. Je remercie notre technicien en chef, Monsieur Stéphane, et je vous dis à bientôt. Bye bye, merci.